L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
La semaine dernière, je me disais que j'allais vous apporter un bon message sur comment gérer son temps. Et puis, il y a quelques jours, j'étais dans mon salon en train de discuter avec ma femme et le Saint-Esprit a déposé doucement sur mon cœur un message, le message le plus important, je crois, qu'un pasteur, qu'un évangéliste, que quelconque ministre de Dieu puisse apporter, le message qui est au cœur même de l'Évangile, le message qui guérit, le message qui libère, le message qui sauve. Et j'ai réalisé avec tristesse à quel point le peuple de Dieu aujourd'hui, les chrétiens nés de nouveau, pour une grande majorité, peut-être même plus que 50%, vivent malheureusement dans la défaite. Beaucoup sont oppressés, beaucoup sont déprimés, beaucoup ont des difficultés dans leur couple, beaucoup veulent mettre fin à leur jour, beaucoup de chrétiens sont malheureux. Alors qu'en fait, dans le plan de Dieu, les chrétiens devraient être les personnes les plus heureuses de la terre. Certains chrétiens sont esclaves de passions et de dépendances qui soulagent leurs angoisses, leur stress de la vie. Certains sont esclaves de la cigarette. Certains sont esclaves de l'alcool. Certains sont esclaves du péché. Certains sont esclaves du sexe. Certains sont des esclaves affectives, ne pouvant même pas supporter être seuls. Et quand on regarde un chrétien aujourd'hui, parfois, dans nos églises, on a l'impression que tout va mal. On a l'impression que c'est la catastrophe dans leur vie. On a l'impression qu'il y a des dettes partout, qu'il y a des maladies partout, qu'il y a de la dépression partout. Et même parfois chez certains pasteurs. Et chez les bons pasteurs, parfois, ils sont découragés. Ils vous prêchent la parole. Ils annoncent le message et le chrétien le dimanche est boosté. Et puis quelques semaines après, c'est toujours les mêmes problèmes. Et année après année, les problèmes sont toujours là dans la vie des chrétiens. La souffrance est là, la douleur est là, la peine intérieure est là. Et on se demande, mais pourquoi? Et on continue à s'attacher parce qu'on sait que c'est la vérité. On sait que Dieu existe, on sait que Jésus est le sauveur du monde. Mais il y a comme un déséquilibre entre ce que dit la parole, ce que Dieu dit de nous, et ce que nous vivons en réalité dans notre quotidien, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas pour condamner ou juger ceux qui vivent ces choses, parce que le cœur de Dieu est rempli d'amour pour ces personnes et pour ces enfants. Mais je me suis demandé pourquoi. Pourquoi l'Église, plus on se rapproche de la fin des temps, pourquoi on a l'impression que les chrétiens vont de plus en plus mal? Pourquoi a-t-on cette impression que la maladie s'installe de plus en plus dans l'Église? Que les problèmes relationnels s'installent de plus en plus dans l'Église? Pourquoi on a l'impression que la dépression, la mauvaise humeur, la tristesse, la douleur s'installent de plus en plus dans l'Église? Et j'ai réalisé en fait que les hommes de Dieu ne prêchent plus aux chrétiens le message qui doit être prêché. Je ne mets pas la faute sur les hommes de Dieu, mais je mets la faute sur un courant satanique qui est en train de rentrer dans l'Église d'aujourd'hui et qui fait que les orateurs, les prédicateurs et même les chrétiens se focalisent sur des messages moraux, des messages et des principes de vie, comment un chrétien doit mener sa vie, qu'est-ce qu'il faut faire, et dimanche après dimanche, réunion après dimanche, après réunion, on bombarde les chrétiens de toutes sortes de principes et de choses qu'ils doivent faire pour hériter et marcher dans la victoire. Vous comprenez ce que je veux dire? On est là, on emmagasine des messages, on écoute, et on a toujours, dimanche après dimanche, semaine après semaine, l'impression qu'on n'est pas arrivé, il nous manque des choses, il faut qu'on ait encore quelque chose, il faut qu'on réalise encore quelque chose, il faut qu'on fasse plus ça, il faut qu'on se consacre plus, il faut qu'on ait plus de prière, il faut qu'on ait plus d'intégrité, il faut, et on a toujours l'impression de ne jamais y arriver. Je dois encore faire ça, je ne suis pas encore assez bon, mon caractère n'est pas encore assez bon, mais on s'est détourné du cœur de l'évangile. L'évangile est simple. Et les chrétiens aujourd'hui, parce que on ne prêche plus la croix de Jésus-Christ et l'œuvre rédemptrice que Jésus-Christ a fait à la croix, on a des chrétiens qui sont mous, des chrétiens qui attendent qu'on leur dise qu'il faut encore faire ça pour avoir ce que Dieu veut. Et les chrétiens se condamnent constamment. Il faut que je fasse, il faut que je devienne telle personne pour marcher dans la victoire et recevoir ce que Dieu a à me donner. Mais c'est faux. C'est faux, frères et sœurs. Si aujourd'hui vous pensez que vous avez encore des choses à accomplir, des actes à poser pour être heureux, pour marcher dans la victoire, c'est faux. Et je voudrais qu'aujourd'hui ensemble, nous retournions au cœur de l'Évangile. Là où se trouve la puissance de Dieu. Parce que si nous entendons autre chose que le message qui libère la puissance de Dieu dans nos vies, alors la puissance de Dieu ne sera pas dans nos vies. Si nous fixons en tant que chrétiens nos yeux sur des choses qui ne peuvent produire la puissance de Dieu, alors la puissance de Dieu ne se manifestera ni dans notre corps, ni dans notre âme, ni dans notre esprit. Dans Jean 19, 30, lorsque Jésus était sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Jésus n'a pas dit « Je dois encore faire des choses ». Il a dit « Tout est accompli ». Mais aujourd'hui, l'Église, de plus en plus, année après année, néglige la puissance de la rédemption que Jésus-Christ nous a acquis à la croix. C'est là le problème. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Frères et sœurs, la puissance de Dieu se trouve dans la foi de l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul a eu une révélation 30 ans après la mort de Jésus-Christ, qu'aucun homme n'a eu, que l'on ne trouve pas dans les évangiles. Cette révélation qu'il a eue, c'est que la puissance de Dieu, c'est la prédication de la croix. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ, Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, la prédication de la croix est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et nous avons détourné dans notre vie chrétienne les yeux de la croix. Année après année, nous nous sommes détournés de l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et nous avons fixé nos yeux de plus en plus sur des principes, des choses à accomplir, des actions à poser, de l'intégrité à avoir, du caractère à avoir. Certes, ces choses sont bonnes, mais la puissance de Dieu ne réside pas dans ce que nous pouvons produire nous-mêmes. La puissance de Dieu réside dans l'œuvre de la croix. Les Juifs, pour les Juifs, la croix était un scandale. Pour César et Rome, la croix était une punition, nous dit Paul. Pour les païens, elle est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, l'œuvre de la croix, est la puissance de Dieu. Imaginez-vous Paul, appelé par Jésus-Christ, un homme fait de chair et de sang, né pécheur. Il rencontre le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus lui dit « Va et prêche, va annoncer aux païens, aux incroyants, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la loi juive, va leur parler de Jésus-Christ. » Et l'apôtre Paul va se retrouver à aller de ville en ville, de village en village, et il va se retrouver à Corinthe, chez les Grecs, et il va se retrouver en face d'une foule de personnes qui sont des personnes sages, qui baignent dans la philosophie, qui ne demandent qu'une chose, arriver à connaître la vérité. Et l'apôtre Paul, un chapitre plus loin dans 1 Corinthiens 2, 1, 8, nous dit « Pour moi, frère, » après, ils ont été sauvés, bien sûr, ces gens, mais lorsque Paul est arrivé la première fois, il s'est retrouvé en face de gens qui ne connaissaient rien à Jésus-Christ, qui ne connaissaient rien à la parole de Dieu. Et il fallait que Paul leur démontre que Jésus-Christ est le sauveur du monde, que Jésus-Christ est celui qui peut les réconcilier avec Dieu. Et l'apôtre Paul dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Car je n'ai jugé bon de savoir autre chose parmi vous. Écoutez ce qu'il dit. Car je n'ai jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi esprit et de puissance ? Il dit qu'il tremblait, il dit qu'il n'était incertain de ce qu'il pouvait produire lui-même. Il savait qu'il dépendait entièrement de Dieu. Et dans cet état de grande faiblesse et de grand tremblement face à des gens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, il a jugé bon de fixer ses yeux sur la puissance de Dieu. Et cette puissance, il l'a dit, elle n'est autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et l'apôtre Paul, dans ce moment de crainte, de grand tremblement, va se fortifier en se rappelant ce que Christ a accompli à la croix pour l'humanité, pour vous et moi, pour tous les hommes pécheurs. Il dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse, c'est-à-dire la croix, que nous prêchons parmi les parfaits, c'est-à-dire parmi les chrétiens. Nous, les chrétiens nés de nouveau, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle. Ici, il parle des principautés démoniaques, des esprits mauvais qui détruisent ce monde et qui détruisent la vie de beaucoup d'hommes, qui vont être réduits à la puissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant des siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue. Aucun des démons ne l'a connue, il dit, car s'il l'avait connue, et même si Satan l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Colossiens 2, 13, 15 nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. À quel moment il a pardonné nos péchés? À quel moment nous avons été justifiés par Dieu? Au moment de la croix où Jésus-Christ a versé son sang pour pardonner nos offenses. La victoire et la puissance de Dieu est dans la rédemption que Jésus-Christ nous a acquise à la croix. Quelle est cette puissance? La puissance de son sang qui a coulé pour pardonner toutes nos fautes, pour nous justifier et nous déclarer réconciliés avec Dieu, justes devant Dieu, parfaits devant Dieu. C'est ce que l'œuvre de la croix a fait. Il a effacé à la croix l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Alléluia. Autrement dit, à la croix, Christ a tout accompli. Laissez-moi vous expliquer. Si, Andrew, tu peux venir. Et Dieu créa Adam. Et Dieu donna à Adam toute autorité et tout pouvoir sur un territoire bien précis, pas dans le ciel, mais sur la terre. Et Adam est parfait. Adam est puissant. Adam règne. Mais sur la terre, il y a des animaux, et Dieu donne à Adam l'autorité sur tous les animaux, sur tout ce qui respire, sur toute la création, et même sur les anges et les démons déchus, et sur Satan. Adam avait toute autorité sur Satan. Satan était l'esclave d'Adam. Satan ne pouvait rien sur Adam. Adam et Ève étaient parfaits en Éden, et Dieu leur a tout donné, et ils étaient heureux et pourvus en toutes choses. Mais Satan était rusé. Il est venu, alors que l'homme était heureux, immortel, rempli de Dieu, connecté avec Dieu, tout puissant et rempli d'autorité, il régnait sur la terre et faisait ce qu'il voulait. Satan est venu et a corrompu Adam et Ève en leur faisant désobéir à Dieu et commettre ce que la Bible appelle le péché. Lorsque Adam a péché, la nature du péché, cette maladie, cette chose horrible est venue s'attacher sur Adam. Adam, avant la chute dans le jardin, il était saint, il était puissant, il était fort, il était tel que Dieu voulait qu'il soit. Vous comprenez? Satan est venu. Il a fait commettre à Adam la seule chose et à Ève la seule chose qui pouvait lui faire perdre toute sa dignité, lui faire perdre toute son autorité, lui faire perdre toute sa gloire, lui faire perdre tout son bonheur, lui faire perdre toute sa santé. Et lorsque Adam a péché, il a perdu sa condition. Il a perdu sa position.
C'est bon ? Si tu peux baisser un peu ta tête tout le long.
Voilà. Adam a perdu sa dignité. Il a perdu sa position. Il a perdu sa confiance en lui-même. Il a perdu sa relation avec Dieu. Et Adam a commencé à ressentir angoisse. Il a commencé à ressentir de l'amertume et de la colère. Il a commencé à ressentir de la tristesse. Il a commencé à ressentir la faiblesse, la maladie et la mort dans son corps. Le péché s'est attaché à lui. C'est ce qu'il s'est passé. Mais Dieu tellement aimé Adam que même s'il était juste et parfaitement saint, et dans sa justice, il devait juger Adam. Parce que Dieu est saint et sa nature de justice ne pouvait pas concevoir le péché. Et rien de imparfait ne pouvait venir dans sa présence. Sinon Adam mourrait dans la présence de Dieu. Et Adam se retrouve séparé pour l'éternité d'avec Dieu. Et ce qui est pire, c'est que cette nature de péché ne s'est pas uniquement attachée à Adam et à Ève, mais elle s'est également attachée à toute la descendance d'Adam et Ève. Et les enfants d'Adam et Ève, et les enfants des enfants, et les enfants des enfants, et les enfants des enfants, jusqu'à vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants, héritent de cette nature du péché. Et dès leur plus jeune âge, cette nature, cette maladie, est attachée à eux. Et dès leur enfance, les pousse à désobéir, les pousse à faire ce qui est mal, les pousse à mentir, les pousse à voler, les pousse à se détruire, les pousse à se suicider, les pousse à la maladie, à la dépression, à l'angoisse, au stress. Et Dieu avait une solution. Et dans Genèse 3,15, il dit à Satan, « Je mettrai inimitié, hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » À ce moment-là, Dieu, au moment où Adam a chuté, Dieu a prophétisé la solution qui allait venir. Dieu a dit, « Je vais faire venir une personne. » Qui va rétablir la situation et qui va redonner à l'homme sa dignité, qui va redonner à l'homme son autorité, qui va redonner à l'homme son bonheur, qui va redonner à l'homme sa joie, qui va redonner à l'homme sa relation avec Dieu, qui va redonner à l'homme la vie éternelle, qui va redonner à l'homme la prospérité, qui va redonner à l'homme la santé, qui va redonner à l'homme l'épanouissement de l'âme. Et Dieu avait prévu d'envoyer un homme qui allait prendre sa place. Un homme qui allait être 100% saint, 100% juste. Une offrande de sacrifice, parce qu'il n'y a pas de pardon du péché dans le monde spirituel à moins que le sang d'un innocent soit versé. Et la Bible dit que le sang des animaux ne pouvait être agréé par Dieu comme une offrande suffisamment excellente pour que la justice de Dieu déclare l'homme libre, l'homme juste, l'homme racheté devant son Créateur. Et au ciel, Dieu et Jésus-Christ, Dieu le Père et Jésus-Christ ont eu une discussion très sérieuse au sujet de l'humanité. Et le Père a dit à son Fils, « Je veux t'envoyer Jésus-Christ. Tu es le seul de toute l'humanité à pouvoir entrer dans un corps non né de la relation d'un homme et d'une femme, un corps 100% pur, à être un agneau saint devant moi et à livrer ta vie en sacrifice à leur place. » Et dans le plan de Dieu, son plan était très simple à comprendre. Nous sommes tous coupables et nous sommes tous pécheurs. Et nous méritons l'enfer, nous méritons de demeurer dans cette condition. Lorsque Adam et Ève ont chuté, Satan a repris l'autorité sur la terre. Et jusqu'à ce que Jésus vienne, Satan a régné en maître sur la terre, n'est-ce pas ? Il a envoyé la maladie. Il a envoyé la dépression, il a tenu les gens esclaves du péché. Il a tenu les gens esclaves et malheureux. Mais Jésus a dit dans Hébreux 10, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice. » Il parle à son Père, « Ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, ô Père, Je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et Jésus-Christ vient sur terre. Et à un moment donné, son temps est venu, à l'âge de 33 ans. Jésus est dans le jardin de Gethsémané. Et il se souvient qu'il est venu pour une seule chose sur terre. Pour faire en sorte que l'homme qui a été séparé de Dieu, l'homme qui est esclave du péché, l'homme qui est sous la domination du diable et des démons, que l'homme soit enfin libéré, que l'homme soit enfin libre de son péché, que l'homme soit entièrement pardonné et déclaré juste devant Dieu, que l'homme soit réconcilié avec son Créateur et qu'il retrouve la condition qu'il avait avant la chute dans le jardin. Que l'homme retrouve son bonheur, que l'homme retrouve sa joie, que l'homme retrouve son autorité, que l'homme retrouve la santé, que l'homme retrouve sa dignité, que l'homme retrouve sa joie de vivre. C'est le plan de Dieu. Et il a tout fait, croyez-moi, pour l'accomplir, au point qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui a pris un énorme risque, qui est venu sur cette terre comme Adam est venu sur cette terre. Et si Jésus, lorsque Satan l'avait tenté, avait comme Adam désobéi une seule fois, Jésus-Christ n'aurait pu mourir à la croix comme un innocent pour pardonner vos péchés. Imaginez le risque que Dieu a pris de se séparer de pour l'éternité de son Fils unique, Jésus-Christ. Si Jésus avait commis un seul péché, un seul, une seule tentation, une seule bavure, il n'aurait pu être un sacrifice saint et parfait. Mais Dieu t'a tellement aimé qu'il a quand même envoyé Jésus, qu'il a quand même pris ce risque énorme. Et Jésus a accepté de se soumettre. Il est venu et il a mené une vie parfaite. Et puis à un moment donné, dans le jardin du Gethsémané, écoutez-moi bien, le temps est venu. Jésus savait ce pourquoi il était venu. L'innocent devait prendre la place du coupable. Jésus, dans le plan de Dieu, il devait prendre la place du pécheur. Jésus devait prendre notre condamnation. Jésus devait payer la dette que la justice de Dieu exigeait. Jésus devait mourir. Ce par quoi nous devions passer en tant que pécheurs, séparés de Dieu, condamnés, jugés, pour l'éternité dans un lieu de souffrance, Dieu a décidé que son propre Fils prendrait cette place pour tout le monde, une fois pour toutes. C'est l'innocent qui paye pour le coupable. Et Jésus vient dans le jardin de Gethsémané, son heure est venue et il sait que c'est le temps et c'est dur pour lui parce que Jésus va voir ce qui lui est en train de, qui va lui arriver. Jésus va voir que tous ces hommes qui l'a béni vont lui percer les mains, vont lui percer les pieds, vont le frapper au point qu'il n'aurait plus l'apparence d'un homme, vont le fouetter dans le dos, sur le corps, à tel point que la Bible dit que son dos sera labouré, et a été comme un champ qu'on a labouré. Il n'avait plus aucune apparence ni éclat, il était défiguré. Et Jésus, dans le jardin de Gethsémané, voyait tout ça, et il savait que c'était le grand prix qu'il devait payer, parce que par ses meurtrissures, nous allons être guéris. Et Jésus savait une chose, que ce n'était pas les Romains qui allaient le crucifier. Jésus savait une chose, que ce n'était pas les Juifs qui allaient le crucifier. Certes, dans le naturel, si, peut-être. Mais ce que Jésus voyait surtout, c'est spirituellement ce qui allait se passer. Dans Ésaïe 53, verset 10, il a dit « Il a plu à l'Éternel de briser Jésus-Christ par la souffrance. » Le Père, Jésus voyait dans le jardin de Gethsémané, juste avant la croix, que la main de son Père bien-aimé, la main de son propre Père, la main de celui qu'il aimait, la main du Dieu Tout-Puissant allait s'abattre contre lui et le jugement de Dieu allait frapper Jésus-Christ au lieu de frapper l'homme. Vous comprenez? Et Jésus voyait tout ça. Et vous savez, quand moralement on voit tout ça, il voyait sa séparation d'avec Dieu, il voyait la grande souffrance, le rejet, la dépression qu'il allait souffrir, il voyait qu'il allait porter le poids du péché du monde entier sur ses épaules. Et c'était dur, c'était tellement dur que mentalement c'était insupportable, c'était une souffrance à l'extrême que son corps avait besoin d'évacuer ce stress au point que des grumeaux de sang coulaient sur son visage. Des grumeaux de sang coulaient sur son visage. Le prix était lourd, mais c'est ce pourquoi il est venu. Alors l'Église ne doit pas négliger. Frères et sœurs, nous devons retourner à la croix. Nous ne devons pas négliger la puissante œuvre rédemptrice que Jésus-Christ a accomplie, car elle est la puissance de Dieu. Il prend notre place. Spirituellement, ce qui se passe à la croix, frères et sœurs, vos péchés, vos maladies, votre pauvreté, votre souffrance, votre état d'âme, tout ce que vous pouvez vivre actuellement, tous les défis que vous avez, les malheurs qui peuvent traverser votre vie, les souffrances, les incompréhensions, les peines, les douleurs, le rejet, la dépression, tout, il a tout porté. Même ses amis les plus proches l'ont rejeté à la croix. Il a tout subi. Et tout ce mal est venu sur Jésus. Ce mal a quitté Andrew. Ce péché vous a quitté spirituellement. Il est allé sur Jésus. Et Jésus a porté le poids du péché de l'humanité. Et au lieu que ce soit nous qui soyons condamnés, c'est Jésus qui a été frappé à notre place. Jugé à notre place. Et Jésus est mort. Jésus est mort. Et il est allé dans le séjour des morts pendant 3 jours. Mais Dieu avait un plan. Il savait que Jésus-Christ a été fait péché. Mais il n'était pas un pécheur. Jésus-Christ a été fait péché. Dieu a pris vos péchés, Dieu a pris mes péchés et l'a mis sur Jésus. Et Jésus a été fait péché. Mais lui-même n'avait jamais péché. Et dans sa justice, Dieu a eu le droit légal de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts après que le prix ait été payé. Le prix de notre liberté, le prix de votre liberté, le prix de votre bonheur. Son sang a coulé, chaque goutte de son sang a pardonné toutes vos dettes, tous vos péchés, toute votre condamnation. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation par l'œuvre de la croix. Nous sommes tous libérés.
Alléluia. Alléluia. Go.
C'est la puissance de Dieu que le pardon des péchés. Ne cherchons pas ailleurs, là où Dieu a pardonné les péchés, il y a la pleine liberté. Et Jésus meurt, et 3 jours après, Dieu a le droit légal de le ressusciter. Mais quand Jésus ressuscite, la bonne nouvelle, c'est que la dette a été payée. C'est qu'elle n'a plus à être payée. C'est que l'homme n'a plus à subir le péché. L'homme n'a plus à subir la condition du péché. L'homme n'a plus à subir la malédiction. L'homme n'a plus à subir la maladie. Parce que par les meurtrissures de Jésus, l'homme a été guéri. C'est ça la puissance de Dieu. Et Jésus ressuscite, et la Bible dit que quand il ressuscite, il ressuscite comme le premier-né de la création. Ouh, yes! Une nouvelle création, un nouveau type d'homme. Excusez-moi, j'ai des frissons quand j'en parle. Un nouveau type d'homme. Jésus ressuscite comme un nouveau type d'homme. Un homme saint, un homme qui ne peut plus pécher. Non, il ne peut plus avoir la nature du péché. Quand même accidentellement il pécherait, il ne serait pas un pécheur. Parce que Dieu a payé, le prix a été payé, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de sentence. Il n'y a plus de punition. Il n'y a plus de malédiction. Un homme nouveau, la Bible dit dans 1 Corinthiens. Avant de vous dire ça, Jésus hérite de ce statut, le premier-né d'entre les morts, le premier-né de la création. Et il va hériter du nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et Jésus, à la croix, dit « Tout est accompli ». Pour sa part, il avait tout fait. Il restait la part de Dieu et du Saint-Esprit qui était de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Il l'a fait. Jésus est allé au ciel avec sa nouvelle nature. Et il a apporté son sang au ciel. Voilà, pour l'éternité, par une seule offrande. Hébreux, chapitre 10, verset 14, dit « Par une seule offrande ». Écoutez bien, par une seule offrande. L'offrande de son corps, l'offrande de son sang qui a coulé, l'offrande de son sacrifice, l'offrande de ses meurtrissures, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Alléluia! Nous sommes parfaits! Par une seule offrande, il a rendu parfait! J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Par une seule offrande, il a rendu parfait! À perpétuité, ceux qui sont sanctifiés. Et comment ça se passe? Eh bien, Andrew, un jeune homme, comme lui, entend parler de l'Évangile en décembre dernier. Il entend la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité pour le pardon de ses péchés. Et la Bible dit que Jésus-Christ, au moment de sa résurrection, a hérité. Il a dit, les prophètes attestent de lui qu'il a reçu de Dieu l'autorité de pardonner les péchés, qu'il est juge des morts et des vivants dans Actes. Il est juge des morts et des vivants. Et les prophètes attestent tous pour dire une chose, quiconque croit au Seigneur Jésus reçoit le pardon de ses péchés. Ce que Dieu attendait depuis tellement longtemps, ce que l'humanité attendait depuis tellement longtemps, que l'homme enfin soit réconcilié avec son Créateur, que l'homme enfin retrouve son identité, que l'homme enfin soit guéri, que l'homme enfin soit en bonne santé, que l'homme enfin soit prospère, que l'homme enfin soit épanoui et productif. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et Andrew a invoqué le nom du Seigneur Jésus. Et Jésus, rempli de compassion et de miséricorde, a dit, voilà. Et Andrew est l'homme qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Non, mais ça me dépasse. Ça me dépasse. Il hérite de la même position que Jésus-Christ, le premier-né d'entre la création, le premier-né d'entre les morts. Il hérite de la même condition que Jésus-Christ spirituellement. Voici, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, Andrew, l'homme est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Il est devenu une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées, elles sont clouées à la croix, elles sont restées sur la croix. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. C'est fou. C'est fou, Christ a tout accompli. L'homme est parfait par une seule offrande. Mais les chrétiens parfaits, comme je vous le disais tout à l'heure, continuent à vivre dans la défaite. Alors qu'à la croix, Christ nous a accrié la triple bénédiction. La triple bénédiction de 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ici, ça parle des biens matériels. Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis à la croix. que tu sois en bonne santé. Et là, il nous parle de notre corps qui est en bonne santé à cause de l'œuvre de la croix. Et la troisième bénédiction, comme prospère l'état de ton âme. Et là, il parle d'une âme épanouie, d'un homme heureux, d'un foyer heureux, d'un couple heureux, des gens heureux, épanouis et joyeux. Il y a quelque chose qui nous échappe. Si nous sommes parfaits, si Dieu a dit tout est accompli, et qu'après Dieu est allé s'asseoir, en gros j'ai tout fait. Nous, nous sommes là, et nous continuons à dire, Seigneur, délivre-moi. Nous continuons à dire, Seigneur, guéris-moi. Mais Christ s'est assis. Pourquoi il s'est assis? Parce qu'il a tout accompli. Nous ne pouvons pas continuer, en tant que chrétien parfait, de demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Le problème, il est où? Est-il dans la nature que vous avez? Non, votre esprit est né de nouveau. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Il a fait de vous une nouvelle création. Même si Andrew commet un péché, la Bible dit qu'il reste un saint. Il reste un saint entièrement justifié et pardonné devant Dieu. Qu'il est sauvé pour l'éternité et qu'il a toute autorité au nom de Jésus-Christ. En plus de ça, Dieu lui a redonné l'autorité qu'il a perdue et une autorité d'autant plus supérieure au travers de son nom. En gros, nous avons tout ce qui contribue en nous à la vie et à la piété. Nous n'avons plus rien à recevoir. Nous avons tout en nous reçu ce qui contribue à la vie et à la piété. Et par la puissance de Dieu qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Nous sommes parfaits. Nous avons tout reçu. Mais d'où vient le problème? Pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont jamais malades? Comme le pasteur Joël, n'est-ce pas? C'est vrai, il n'est jamais malade. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont toujours joyeux? N'ont-ils pas des défis dans la vie? N'ont-ils pas des problèmes, des situations financières à régler? N'ont-ils pas des problèmes relationnels et des attaques du diable? Écoutez-moi bien, c'est le moment clé du message. Si, bien sûr que si, mais c'est comme si ils sont dans la victoire. Frères et sœurs, le problème est là, dans notre âme. Quand quelqu'un naît de nouveau, son cœur, son esprit est changé, son être intérieur profond est changé, ce qui fait de lui ce qu'il est changé. Son corps n'est pas changé, son corps va mourir. Son corps est mort à la croix avec Christ, sa chair. Son âme, par contre, est restée la même. Dieu dit, vous êtes libre, vous avez été guéri, vous avez été pourvu financièrement, vous avez été pourvu dans votre âme, mais, un autre côté, on est là, et il y a la réalité des choses, on voit nos symptômes, on voit nos conditions, on voit les difficultés, et on se dit, mais non, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et combien de fois j'ai prêché des messages? J'ai prêché un message sur l'intégrité, sur Enseigne-moi, que j'avais mis en avant. Et j'avais dit des versets que de l'Ancien Testament, où Dieu promet à celui qui est intègre un bouclier. Mais c'est sous l'Ancienne Alliance. J'ai dû supprimer tous ces messages. Quand ma révélation a grandi, quand j'ai réalisé que je ne peux absolument par moi-même rien faire pour être plus sain, pour être meilleur, je suis déjà parfait. Il n'y a rien à faire, il y a juste à aligner son âme à la parole de Dieu, à croire ce que Dieu a dit. Laissez-moi vous expliquer une chose. En 1865, en Amérique du Nord, aux États-Unis, vous savez, il y avait la guerre de sécession, et Abraham Lincoln, il y avait à ce temps-là l'esclavage, vous connaissez ? Et surtout dans le sud des États-Unis, il y avait des plantations de coton et les Noirs étaient vraiment opprimés, ils étaient esclaves, ils étaient inférieurs aux Blancs. Écoutez bien, s'il vous plaît. S'il y a un moment où vous devez écouter, c'est là, vraiment. Et Abraham Lincoln a lutté pour faire passer un amendement pour l'abolition de l'esclavage. Je pense que tous vous savez. Mais Il meurt, mais c'est seulement le 18 décembre de l'année 1865 qu'après sa mort que l'amendement va passer déclarant les esclaves libres. Vous imaginez, les Noirs, avant, à cause de leur couleur de peau, étaient esclaves. Ils étaient opprimés, les Blancs dominaient sur eux, les Blancs régnaient sur eux. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La condition de l'homme avant la croix, où Satan dominait sur l'homme sans aucun problème. La maladie, la souffrance, la douleur, la peine, ils étaient esclaves, ils n'étaient plus libres, ils étaient enchaînés. Jésus est venu pour nous libérer de l'esclavage. Et puis cette loi est passée. Mais ce qui est curieux de voir, c'est que alors que la loi est passée et que quelques mois plus tard, un second amendement passé déclarant même que les Noirs pouvaient voter, ce qui est très étonnant, c'est que les Noirs du Sud sont restés esclaves pendant un siècle. Écoutez, ils sont restés esclaves encore. Ils sont restés dans leurs conditions misérables pendant encore un siècle. Alors que la loi des États-Unis d'Amérique avait dit, avait déclaré qu'ils étaient libres. Et effectivement, ils étaient libres. Un noir pouvait voter, un noir pouvait se balader librement, un noir pouvait boire un café dans un café, un noir pouvait travailler comme les autres, un noir avait les droits civiques des blancs. Mais pourquoi pendant un siècle, ils sont restés esclaves? Parce qu'il y avait des blancs qui, leur business n'allait plus pour les plantations de coton, entre autres, et les blancs venaient et intimidaient les esclaves. Ils les intimidaient, ils étaient violents avec eux, ils leur faisaient croire encore toutes sortes de choses, et même si les esclaves étaient libres, en réalité, ils avaient décidé de rester esclaves pendant un siècle, jusqu'au jour où ils ont réalisé que la loi des États-Unis avait vraiment dit qu'ils étaient libres et qu'ils ne pouvaient plus supporter que des hommes les intimident à ce point pour qu'ils restent esclaves. Alors ils se sont relevés, ils se sont rebellés et ils ont pris position, ils ont aligné leur façon de penser à ce que la loi déclarait et ils ont commencé à vivre dans leur liberté. C'est exactement. Non mais je ne l'ai pas dit, exactement ce qui se passe avec les chrétiens. Nous sommes libres. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous sommes prospères. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La puissance de la croix nous a libérés. Mais dans notre âme, nous continuons à croire les mensonges du diable. Nous continuons à accepter que nous ne sommes pas assez bons. Nous ne sommes pas assez dignes. Il nous manque des choses. Il nous manque de la consécration. Il nous manque de la piété. Il nous manque quelque chose. Et nous continuons à vivre comme des esclaves. Nous continuons à pécher. Nous continuons à être malades, nous continuons à souffrir de dépression, alors que Christ a été déprimé à la croix, a porté notre dépression, alors que Christ a porté nos maladies. Dieu a dit, Dieu a déclaré, nous sommes tous libres. Amen. Et frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'évangile et la puissance de la croix, c'est tout simple, vous êtes libres. Acceptez de le croire. Acceptez d'aligner votre âme à cela. Comme l'apôtre Paul, arrêtez de fixer vos regards sur ce que vous n'avez pas. Arrêtez de fixer les regards sur vos conditions, mais fixez les regards sur ce que Christ a accompli. Car je n'ai jugé savoir autre chose, bon de savoir autre chose au milieu de nous ce matin que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La croix de Jésus-Christ serait-elle vaine parmi nous pour que nous continuions à vivre comme des esclaves? Nous sommes puissants et nous sommes parfaits dans notre esprit. Alors plutôt que dire « Seigneur, guéris-moi », il faut qu'on change notre langage et dire « Merci Seigneur pour la guérison que tu m'as acquise ». Plutôt que dire « Seigneur, délivre-moi », nous devrions plutôt changer notre langage et dire « Seigneur, merci pour la délivrance que tu m'as acquise à la croix ». Oui, c'est une folie pour les incroyants. Oui, c'est un scandale pour les juifs. Oui, c'est une punition pour les romains. Mais pour nous qui sommes parfaits, pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Le problème est là. Nous avons détourné nos yeux sur ce qui nous sommes réellement. Nous avons détourné nos yeux sur notre identité réelle. Vous n'êtes pas un moins que rien. Vous n'êtes pas dans des difficultés. Vous n'êtes pas pauvre et misérable. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une race élue, vous êtes saint, vous êtes parfait. Dieu l'a dit et Dieu ne fera rien de plus pour vous que ce qu'il a fait parce qu'il a tout fait. N'attendez pas plus. N'attendez pas plus. Mais dans votre être intérieur, levez-vous. Levez-vous de votre oppression. Levez-vous de votre dépression. Levez-vous de votre esclavage, de cette dépendance. Levez-vous intérieurement. Réveillez en vous la conscience de qui vous êtes. Parce que plus vous allez réaliser et comprendre qui vous êtes, et ce que Christ a fait pour vous à la croix de Golgotha, plus cette révélation va venir en vous, plus vous aurez conscience de qui vous êtes réellement, plus vous allez marcher dans cette victoire. Nous ne sommes pas des moins que rien. Nous ne sommes pas des pauvres, nous ne sommes pas des malades. Nous sommes une nouvelle création. Y a-t-il quelque chose de plus que nous devrions comprendre, si ce n'est de réaliser, pour vivre dans la liberté, que Christ nous a libérés ? Je vous pose une question. Est-ce que Christ... Est-ce que Jésus-Christ a porté nos maladies? Je vous pose une question. Est-ce que Jésus-Christ a pris notre pauvreté? Est-ce que Jésus-Christ a pris notre dépression? Est-ce que Jésus-Christ a été malheureux sur la croix? Est-ce que Jésus-Christ a été rejeté sur cette croix? Alors pourquoi accepteriez-vous encore de porter le rejet? Pourquoi accepteriez-vous encore une seconde de plus de croire au décret du diable? Et de sombrer dans une dépression au point de vouloir en finir avec votre vie et de vous lamenter jour après jour? Pourquoi continuerions-nous à porter nos souffrances et nos douleurs alors qu'il les a portées? Soit il les a portées, soit nous continuons à les porter nous-mêmes. Soit il les a portés, soit c'est que nous continuons à les porter nous-mêmes. Et le chrétien qui ne change pas sa mentalité va continuer à croire au mensonge du diable qui dit qu'il est pauvre, qui dit qu'il est misérable, qui dit qu'il est malade. Et le chrétien va être constamment courbé, constamment bas, alors qu'en fait, il n'est pas ce que le diable dit qu'il est. Pourquoi un prince et un roi qui a la vie et la plénitude de Dieu en lui devrait pleurer chaque jour, devrait souffrir chaque jour? Comprenez-moi, frères et sœurs, je ne vous dis pas ça du haut de l'estrade avec ce micro comme quelqu'un qui juge. J'ai moi aussi souffert. J'ai moi aussi eu des maladies parfois. J'ai moi aussi eu des dettes et été dans des problèmes. Je sais ce que c'est, je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est dur d'être dans des problèmes relationnels. Je sais ce que c'est que se sentir tout le temps comme moins que rien et dévalorisé, attaqué par la vie et par les soucis de la vie. Mais si je sais ce qui libère, si je sais la vérité, si je sais, pourquoi m'empêcherais-je de vous la donner ? Pourquoi enroberais-je la vérité de des petites paroles pour dire « Mais ça peut continuer comme ça, c'est pas grave, malgré tout, t'es sauvé, tu vas à la vie éternelle. » Si je le fais, c'est parce que je sais que Dieu veut et que Dieu a tout accompli pour que nous soyons pleinement heureux, pleinement bénis. Et que le peuple de Dieu aujourd'hui est opprimé alors qu'il est saint, il marche la tête courbée. Alors qu'il est parfait, alors qu'il a toute autorité, le diable domine comme un pantin. Oh, j'ai envie de lui dire à ce diable. J'ai envie de le regarder en face et je vais le lui dire. Comme si c'était vous qui le disiez. Écoute-moi bien, Satan. Jésus-Christ a porté à la croix le poids de mon péché. Je suis saint, je suis pardonné, pleinement accepté, pleinement justifié. Je suis une nouvelle création. Alors écoute-moi bien, Satan. Arrête de me faire croire comme ces esclaves noirs en Afrique, en Amérique du Sud. Arrête de me faire croire de ces esclaves que je suis encore esclave. Je suis libre, le Seigneur a dit. Je suis libre, le Seigneur a dit. Je suis guéri, le Seigneur a dit. Je suis pourvu, le Seigneur a dit. Je suis sauvé, le Seigneur a dit. Je suis loin, le Seigneur a dit. J'ai autorité, le Seigneur a dit. Il a tout accompli, si le Seigneur a dit. Alors je secoue mon âme. Et je dis, mon âme, tu t'alignes maintenant. Et tu cesses à compter de ce jour de te lamenter, car tout va bien, tout est accompli. Et quand vous le faites avec conviction, sachant qui vous êtes, une nouvelle création, une nouvelle race, un nouveau type d'homme semblable à Jésus, quel démon peut résister ? Vous avez autorité ! Le problème, c'est l'âme. L'âme qui refuse de le croire. L'âme qui croit au naturel. L'âme qui fixe les yeux sur le naturel. Mais l'homme spirituel, comme l'apôtre Paul, je n'ai voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Pourquoi ? Parce qu'il savait que si Christ a payé un si grand prix, c'est pour libérer tous ces hommes. Et les Corinthiens ont été sauvés. Et l'Église est née par une démonstration d'esprit et de puissance. Le problème avec les chrétiens, c'est que là, certains d'entre vous vous attendez, il a prêché sur la croix, il va avoir un temps de ministère, il va m'imposer les mains. Voilà le problème. Naaman, ce général, quand Élisée lui a dit « plonge-toi sept fois et pour être purifié de ta lèpre », il a dit « je ne vais pas me plonger sept fois ». Et nous avons dans notre âme des façons de penser. Mais un chrétien né de nouveau n'a pas réellement besoin d'imposition des mains. En fait, il peut lui-même, par simplement sa foi en Christ et ce qu'il a accompli, se lever de là où il est et être libéré. Prendre autorité. Vous connaissez, vous avez été enseigné dans l'Église sur l'autorité du croyant. En fait, nous devrions changer notre langage, changer notre style de vie et marcher comme des princes dans ce monde, comme des nouvelles créations, parce qu'en réalité, c'est ce que nous sommes en esprit. Je ne vais pas prier pour vous, mais je vais prier avec vous. La prière de la nouvelle création. La prière... Pardon. L'enseignement de la parole de Dieu, la compréhension de ce que Christ a fait à la croix, aligne notre âme à notre esprit et libère la puissance de Dieu et la puissance de l'œuvre rédemptrice acquise à la croix par le sang précieux de Jésus-Christ et par ses meurtrissures. Vous le croyez, frères et sœurs ? Vous le croyez vraiment ? Vous le croyez vraiment ? Vous croyez que vous êtes libres ? Vous croyez que Dieu a encore quelque chose à faire pour vous ? Non, absolument pas. Il n'a plus rien à faire, il a tout accompli. Alors qu'attendons-nous ? Levons-nous et saisissons-nous de ce que Christ a fait. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais ce que je sais, c'est que cette situation n'est pas la vérité. Elle n'est pas la vérité. T'as peut-être mal dans ton corps, je ne sais où. T'as peut-être une maladie, t'as peut-être une tumeur, un cancer. T'as peut-être une douleur perpétuelle. T'as peut-être des migraines et des angoisses chroniques. T'as peut-être une dépression qui ne te lâche pas. Mais j'aimerais te dire... Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur dans ta vie, la puissance de la croix, la puissance de la croix et la foi en la puissance de la croix te libère aujourd'hui, te libère de ces fardeaux, te libère de cette douleur, te libère de ce que tu ressens à l'intérieur de toi qui n'est qu'un mensonge dans ton âme qui te dit tu n'es bon qu'à rien, tu n'es qu'un moins que rien, tu es misérable et petit et petite. Tu es une vermine et un vermisseau. Non, je ne le suis pas. Je suis un saint et je suis parfait, dit la parole de Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.